dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Salut à tous, vous allez bien? Oui? Allez, vous le savez, chaque week-end, on part pour un voyage dans le temps, on fait défiler les époques et on revient sur des moments de vie et la carrière d'un invité incontournable du théâtre. Il y a aussi la télé, la chanson, le cinéma, le sport. Lui est animateur, comédien, humoriste. Il a cartonné avec ses émissions Le Juste Prix, L'Or à l'appel, Le Big Deal. On accueille Bip Bip!
Yeah!
Vincent Lagaffe. Bonjour Vincent.
Salut Déborah.
Vous êtes au théâtre en ce moment pour une pièce qui a cartonné entre 2003 et 2005.
Ouais.
Le jeu de la vérité de Philippe Lelouch. Alors l'histoire, c'est super facile. Hein. Ça se résume bien. C'est trois potes en fait qui retrouvent leur amour de jeunesse. Margot, alors je veux pas m'aventurer à en dire plus parce que j'ai peur de faire une gaffe.
Elle est bonne celle-là.
Ah, j'avais pas fait exprès.
Ah ouais.
Non, mais c'est vrai.
C'est trois potes qui sont vraiment trois potes d'enfance qui ont l'habitude de bouffer une fois par semaine chez l'un des trois. Et ce jour-là, ils viennent bouffer chez Jules, chez moi, qui leur a réservé une surprise. C'est qu'il y a un quatrième couvert et ils vont recevoir Margot, celle qui les a tous fait kiffer, mais grave de chez kiffer, celle qu'ils auraient tous voulu pécho et que personne n'a pécho.
Ouais.
Reste à savoir qui va la pécho à la fin de la pièce, parce qu'il y en a un qui va la pécho.
Mais et on ne dit pas qui. Hein.
En direct et tout sur la scène.
Ouais.
Hein,
ouais. Ah ouais.
Ah ouais, puis après, elle gueule.
Oh,
merci.
Ça va faire venir du
Michel.
Monde. Aujourd'hui, vous enfilez le costume de Jules, joué à l'époque par Philippe Lelouch. Comme c'est lui qui a écrit la pièce, il a des exigences particulières avec vous?
Ouais.
Lesquelles, par exemple?
Alors, il dit un truc, c'est « sois heureux ». Alors après, il est hyper pointu dans sa mise en scène.
Vous paraissez assez proche de Philippe Lelouch, dans le caractère, dans la façon d'être, dans le côté déconneur.
On se dit les choses comme elles sont, et puis RABQQA.
Rien n'a
branlé, quoi qu'il arrive.
Quelques jours avant de remonter sur scène, vous vous disiez quoi?
Pourquoi je me suis mis dans cette galère?
Ah ouais?
Quand il nous arrive tout ce qui nous est arrivé, avec l'inondation, trois semaines avant, je veux dire, là, c'est quand même partir d'un truc que je connais pas du tout. La pièce, je l'ai jamais jouée, je l'avais jamais vue, je savais pas de quoi je parlais. Donc, sans avoir vu la pièce, j'ai dit oui.
Non.
Oui, complètement.
Crevard.
Ouais, ouais. Barge. Pas crevard, barge. Mais bon, guerrier, hein, moi,
ça aurait pu être un gros nanar, un gros...
Non, parce que Philippe, il n'a pas écrit de nanar. Je veux dire, les cinq pièces qu'il a écrites sont quand même cinq pièces qui ont cartonné.
On vous envoie souvent des scripts?
Là, on m'en a envoyé un qui est très joli, mais je ne le sentais pas. Donc, j'ai refusé. On m'a envoyé une idée. Voilà, je vous verrai bien dans ce rôle. Sinon, on m'écrit aussi pour me dire que j'ai vraiment bien réussi dans ma vie et que si je pouvais les dépanner 30 ou 40 000 euros, ça les aiderait.
Sérieusement?
Ah, sur ma vie. Hein.
Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour un voyage dans le temps?
Avec vous?
Ouais. Et avec tous nos auditeurs et nos auditrices.
Ouais, je vais plutôt emmener les auditeurs et les auditrices.
Mieux, hein.
Ça va, ouais, là, c'est parce que vous me faites un peu peur.
Nous sommes en Seine-Maritime, à Mont-Saint-Aignan. Franck, né le 30 octobre 1959. Franck, c'est vous. Votre maman vous abandonne le jour de votre naissance. Est-ce que je peux utiliser le terme maman?
Non, pas ma maman. Ma mère biologique, elle m'aime très 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 fort pendant 6 mois. Elle m'aime toujours. Je pense qu'elle m'aurait toujours aimé, mais elle est à la rue, elle est complètement dans une panade monstrueuse. Je suis très gravement malade d'un poumon. Elle fait des allers-retours incessants parce qu'elle habite quand même relativement loin de Mont-Saint-Aignan et elle peut plus, elle peut plus se déplacer. Elle a plus les moyens, donc elle décide de m'abandonner parce que de toute façon, elle pense que j'aurai un meilleur avenir avec des enfants, des parents adoptifs que ce qu'elle ne pourrait me donner.
Et le papa?
Je sais, ça va. Mais auparavant, il faut aussi savoir, pour bien comprendre d'où j'arrive et pourquoi parfois je suis un peu comme je suis, c'est que le monsieur qui l'avait mis enceinte, donc mon père génétique, parce que lui, il était marié, il avait des enfants, c'était son chef d'atelier, donc il y avait déjà un peu la promotion canapé. Je ne sais pas si elle a été obligée ou pas obligée, mais enfin bon, bref, elle est passée à la casserole, comme on dit vulgairement. Et elle voulait me garder, mais lui, pas. Et donc, il lui avait un peu imposé d'aller voir ce qu'on appelait à l'époque une faiseuse d'ange. On va décrocher le fœtus à coups d'aiguille à tricoter. C'était dramatique, c'était une boucherie.
Ouais,
non,
tout à fait. Ouais.
Je suis là, moi. Vas-y, allez bien
survivant.
Avec ton aiguille, là, vas-y. Donc, c'est vrai que, ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne et qui me fasse peur. Mais...
Bah, qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce qui vous fait peur?
J'ai très très peur de ne pas mourir d'un coup. J'ai très peur de souffrir avant de mourir. Et puis après, ce qui me fait peur, c'est de perdre ce qui j'ai de plus cher. Mm.
Vos enfants, par exemple.
Par exemple.
Ouais.
Et uniquement ça.
Mmh. Vous avez donc été adopté à 18 mois, je crois, c'est ça, hein?
Ouais. Et après, il y a la très grosse erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est décider de changer le prénom d'un enfant. C'est-à-dire que pendant 18 mois, on m'a appelé Franck.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc dès que j'entendais Franck, je tournais la tête. Puis un jour, on m'a dit non, maintenant, tu vas t'appeler Vincent.
Mais vous avez des souvenirs de ça? Parce que 18 mois, c'est tellement jeune.
Non, j'ai pas de souvenirs. Mais je sais que pendant très, 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 très longtemps, quand j'entendais Franck, je tournais la tête. Et je me suis démerdé avec juste ce prénom et le lieu de ma naissance. Je me suis démerdé pour remonter jusqu'à ma mère génitrice que j'ai retrouvée.
Et comment ça s'est passé?
Le premier contact, très, 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 très mal. Parce qu'elle savait pas qui j'étais. Et au deuxième contact, quand je lui ai dit je suis né le 30 octobre 59, je m'appelais Franck.
Comment elle a réagi?
Il y a eu un long silence au téléphone. Et puis après, on s'est vu tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe quand on revoit sa mère biologique comme ça?
Ah, c'est elle? Bon. Si un jour j'apprends sa disparition, je ne pense pas que j'aurai beaucoup, beaucoup de chagrin. Par contre, je voulais savoir le comment du pourquoi. Et toute cette histoire, donc, c'est elle qui me l'a raconté. On remonte, hein, parce que la genèse d'un enfant, ce n'est pas juste un homme, une femme, un rapport sexuel. Ça remonte dans les gènes. Et c'est vrai que quand on remonte génétiquement à la mère de... ma mère, il y a encore du très très lourd là.
Vincent Lagaffe, on va continuer de vous découvrir dans un instant la suite dans le rétro juste après ça. I gotta spare, got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah. Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah. For an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Vincent Lagaffe est notre invité aujourd'hui. Il est en ce moment au Théâtre du Gymnase pour l'excellente pièce de Philippe Lelouch, Le jeu de la vérité.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Oui. Vincent Lagaffe, vous grandissez à Aix-en-Provence. Il paraît que vous étiez insupportable.
Insupportable.
Vrai?
J'ai refusé, pendant très très longtemps, j'ai refusé tout ce qui représentait l'ordre, la hiérarchie. J'en voulais au monde entier, j'en voulais à la terre entière. Mais alors ça, après, moi j'ai vu un psy pendant quelques temps, non pas un psychiatre, mais un psychothérapeute, pour essayer de comprendre, parce qu'il y a des moments où on se dit mais pourquoi j'ai besoin de me mettre en danger, pourquoi je ne vois du danger que s'il y a risque de mort d'homme, pourquoi, voilà. C'est...
Alors, je suis désolée de vous dire, est-ce que le psy a servi à quelque chose? Parce que j'ai l'impression que vous êtes autant tête brûlée.
Oui, je suis toujours tête brûlée, mais au moins je sais pourquoi.
Alors pourquoi?
Ben, c'est parce que j'ai eu peur. D'abord, je ne dois rien à personne. Mais à personne, même pas à mes parents adoptifs, je ne dois rien. Je suis parti de chez moi, j'avais 14 ans. Donc, en dehors du fait, oui, j'ai eu une sécurité sociale, oui, j'ai été un peu à l'école, oui, on m'a fait faire un petit peu de sport. Mais je me suis fabriqué tout seul, je me suis fait tout seul. Il n'y a pas une personne sur Terre qui puisse dire « c'est grâce à moi que ». Il n'y en a pas un, pas un producteur, il n'y a pas un, rien que dalle. J'ai toujours eu besoin de me sentir en pleine possession de décisions de mon avenir et de mon chemin. Donc, il y a un moment où seule l'adrénaline me disait « ouais, tu viens de le faire ». Alors je faisais des trucs de fou. Hein. J'ai toujours été attiré par le jeu. Allez, on fait un jeu. Et le but du jeu, c'était de prendre tous mes potes, de les mettre sur la voie ferrée, et c'est le dernier qui part. C'était mes jeux.
Vous êtes malade.
Ouais, traverser l'autoroute en courant, les yeux bandés.
Non.
Alors, à ne surtout pas faire.
Merci.
À ne surtout pas faire.
Merci.
Jamais, jamais de la vie. Moi, j'ai eu la chance. En plus, on était à une autre époque. Moi, je vous parle de ça, j'avais 15-16 ans quand on faisait ça. Il y avait moins de circulation, il y avait moins
non,
de...
mais même.
Voilà.
Même.
Ne jamais faire ça. Traverser l'autoroute, les yeux bandés. C'est
on
faut
évite.
Pas faire.
En 1979, vous partez faire votre service militaire à la caserne Saint-Pierre à Marseille.
Ouais.
Ensuite, vous devenez Géo Club Med.
Bonsoir. Nous allons nous coucher.
Bonsoir. Nous allons les niquer.
C'était ça le Club Med ?
Ouais, complètement. Et
ouais.
Alors, je peux vous dire que j'en ai parlé avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasko. Ils sont d'accord avec moi. Il n'y a pas un truc qui a été inventé. Bip bip, je le sortais du Club Méditerranée. C'était ouais. Un ancien chef de village qui m'avait donné ce gimmick. Mais c'est vrai que ouais, le Club Méditerranée, c'est les bronzés. C'est vraiment ça.
On va se télétransporter à nouveau, Vincent Lagaffe. Appuyez sur le bouton, c'est parti. Nous sommes le 4 octobre 1986 à Vittel. C'est le dernier spectacle de Thierry Leluron. En coulisses, Hervé Hubert.
Amis de la vulgarité, amis de Calençois, mes amis, bonsoir à tous.
Bon, celui qu'on vient d'entendre, c'est pas Hervé Hubert, hein, c'est bien
Leluron. C'est Leluron qui faisait Guy Lux.
Exactement. Et Hervé Hubert, donc, qui était dans les coulisses, c'est un grand producteur qui a bossé avec pas mal d'humoristes. Il y a eu Sim, il y a eu Benoît Poulvorde aussi. Et donc, justement, Leluron. C'est une rencontre décisive pour votre carrière.
J'ai rencontré Hervé Hubert à Vittel. Et je lui ai dit, je veux faire ce métier. Et il m'a laissé sa carte. Et puis quand j'ai quitté le club et que je suis arrivé à Paris, j'ai été le voir. Et il m'a dit, écoutez, moi je pense que ça peut marcher. Je ne vais pas être votre producteur, je suis votre coproducteur. On prend les risques ensemble.
Ça a bien fonctionné.
Ça a plutôt bien marché, surtout que Guy Lux, pendant le spectacle du théâtre de la Michaudière, est venu me voir en disant, est-ce que tu as envie de faire de la télé ? Et au début, Hervé me disait, mais t'es sûr, attends, on va vendre notre âme au diable, etc. Maintenant, il fait plus que ça.
C'est
et
clair.
Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la télé avec Laura Lappel, il était pas chaud du tout. Il était pas chaud. Et quand j'ai arrêté Laura Lappel et que TF1 m'a dit, bon, ben, c'est bien d'arrêter Laura Lappel, mais tu nous donnes quoi à la place? Parce que t'as encore 2 ans à faire. Hervé Hubert, il est arrivé en disant, j'ai! Et il avait été racheté les droits de Let's Make a Deal, une émission américaine qu'on a transformée en Le Big Deal. Et on l'a fait marcher 7 ans d'affilée.
Alors, il y a la télé d'un côté. Et puis il y a eu la chanson, on va allumer l'autoradio.
Voilà, alors ça c'est la phrase qui a fait que ce truc a marché. Et grâce à Harlem Désir.
Ouais, c'était 90, hein, je crois, ouais, hein, dans les années 90. En 2019, ce serait plus possible un titre comme Zoubida.
Non, c'est plus possible.
Vous comprenez que ces paroles, elles puissent déranger de nos jours ?
Non, maintenant, j'ai l'impression que... Là, tout à l'heure, quand j'étais en train de vous attendre en bas, je me suis dit, tiens, je vais vous raconter l'histoire du gros ours pédophile, juif, noir, handicapé et homosexuel. Et puis, je me suis dit, non, je vais pas le faire.
C'est bien, vous êtes adressé à toutes les communautés.
Voilà. Non, pourquoi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de vivre et de montrer qu'ils existent, etc., qui sont prêts à relever n'importe quoi pour dire, ah, vous avez vu, un tel a dit ça. Moi, quand je vois que Tex s'est fait dégager pour l'histoire... Alors, elle est rigolote, son histoire. Ok, elle peut choquer, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter si on ne doit pas rire de l'état d'une personne? Toutes les histoires drôles, mais toutes, il n'y en a pas une qui ne se moque pas, quelque part, de quelque chose. Donc, je pense qu'on arrivera, et il faut absolument arriver... à interdire le rire.
Vous qui êtes un vrai déconneur, qui aimez la vanne, vous devez pas trop aimer l'époque dans laquelle on est là actuellement.
On rigole plus de tel et tel sujet. On rigole plus. Mais maintenant, on a le droit de rigoler chez soi, entre copains. Hein.
Ouais, c'est triste. Surtout quand on est une personnalité publique. Vous êtes sur Twitter,
oui,
vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous faites attention, j'imagine, quand vous faites
j'ai
une
fermé,
vanne. Quand...
J'ai fermé Twitter.
Ah, vous
moi.
Avez fermé.
Ah ouais, Twitter, j'ai fermé.
Pourquoi?
Parce que c'est que de la haine et de la violence et de la méchanceté. Et puis, que quelqu'un commente une réflexion en faisant 30 fautes d'orthographe en 3 mots, il y a un moment, tu dis, c'est pas, je veux pas m'adresser à ces gens-là. Voilà. Et puis, on peut rien y faire, ma bonne dame, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire?
Bon, vous êtes bien là, maintenant, tout de suite, vous êtes heureux? Là, maintenant, tout de suite, maintenant, dites oui, parce que je suis juste en face de vous, je le prendrai mal.
Ah là, non, je suis bien, là. Je passe un bon moment, là.
Bon, Vincent Lagaffe, on revient dans un instant pour la suite dans le rétro sur France Bleu.
Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance. Toi, t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. T'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Ah ah, il peut tout arriver. Ah ah. Rien qu'en riant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Tu donnes tellement, rien qu'en vivant.
Aujourd'hui, c'est Vincent Lagaffe qui est avec nous dans le rétro.
Dans le rétro.
Bienvenue.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Allez, appuyez sur le bouton là juste en face de vous. Télétransportation.
Ouais, ça décoiffe.
Oui, oui, bah surtout vous, oui.
Ouais.
2 février 1998, nous sommes à studio 107 de la Plaine Saint-Denis.
Ça y est, les bienvenus sur le plateau de Bip Bip Bill, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici tous les jours entre 19h et 20h. Dans cette quotidienne qui s'appelle le Big Deal.
Vous enregistrez une émission qui va devenir culte,
c'était
le Big Deal.
Le 2 février, ça?
Ouais. Vous devenez un des animateurs phares de TF1. Vous êtes ultra populaire. Au total, vous aurez passé 21 ans sur TF1. Vous êtes pratiquement quotidiennement dans le salon des Français. Et puis plus rien. Est-ce que vous pensiez revenir un jour ou pour vous, tout ça, c'était fini?
Je me suis dit, si je veux y retourner, il faut que je me calme un peu, il faut que je prenne du recul. Tous les jours, faire une émission dans laquelle on se devait de surprendre les gens, il en faut des idées. Et c'est vrai que quand on regarde bien, qu'est-ce que j'ai pas fait dans le Big Deal? La télé s'arrête, mais personne ne m'a dit ta carrière s'arrête là. Donc je retourne sur scène, et je prends beaucoup de vacances, je fais les rallye-raids que je rêvais de faire, je file un coup de main à mon fils à faire des différentes choses.
Et le fait, en gros, vous vous retrouvez un peu dans l'ombre aussi. À un moment donné, on n'a pas envie de retrouver la lumière?
Si, mais moi, ça faisait déjà 20 ans que j'étais dans la lumière. Donc, prendre des vacances, se ressourcer, faire un break, moi, j'ai plutôt apprécié. J'ai fait ce que j'aime faire, c'est-à-dire les sports extrêmes. J'ai réussi à lier mes deux passions dans la vie, qui sont les sports extrêmes et faire rire les gens.
On va ouvrir la boîte à gants, Vincent Lagaffe, allez-y.
Alors, ouais. Je fais le bruitage de la boîte à gants.
Allez-y.
On y croit, hein?
Oh, pas du tout. C'est un cierge. On a pu lire à droite à gauche que vous étiez un miraculé.
Quand j'ai eu ce 3 ou 4e grave accident où j'ai pris peut-être à 80 km/h chacun en jet ski, j'ai pris mon pote mais de pleine face qui m'a pété le bras, qui m'a pété les côtes, qui m'a percé un poumon. Et il y a une côte qui a été touchée, une artère. On l'a jamais vue parce qu'elle a jamais percé l'artère, mais elle a déformé cette artère. Et quand j'ai voulu faire l'émission de l'île des Robinson, il faut faire un check-up complet parce que c'est vraiment là on vous pousse.
C'est intense.
Dans, on vous pousse dans vos retranchements physiques. Et puis je vais voir mon pote cardio, Jonathan. Il me dit tiens, il y a un truc là, j'aime pas. On fait un scanner. Et je fais le scanner et il me dit écoute, demain je t'opère à 6h du matin. J'ai une artère qui avait une déformation et qui risquait de se boucher. Elle était déjà bouchée à 95-97%. Et je lui dis mais il me dit t'as pas des douleurs? Je dis si, c'est vrai que quand je suis fatigué, stressé ou que j'ai le cœur qui tape vraiment très haut, j'ai une grosse douleur, mais c'est pas du tout la douleur de l'AVC ou j'ai une douleur dans la poitrine. Autant c'est que dalle, autant ça t'arrive du jour au lendemain, ça peut passer d'une minute à l'autre, d'un mois à l'autre, mais si ça t'arrive, il faut qu'on te prenne en charge dans les 10 minutes. Sinon, c'est l'hémiplégie, voire la mort. Lendemain matin, un truc ambulatoire. Hein. Donc on te pose deux stents, une claque au cul, un bounty et tu repars. J'arrive dans la pièce où il y a mon pote Jonathan. Il met le masque et là, je commence à partir. Et au moment où je pars, je sens une putain de décharge, mais vraiment une douleur, un truc. J'ai l'impression que il y a Mike Tyson ou Jérôme Le Banner qui viennent me sauter à pieds joints sur la cage thoracique. Je me réveille quelques heures plus tard, il vient me voir. Et il me dit, je t'ai dit que tu pouvais faire un arrêt cardiaque d'un moment à l'autre, tu viens de le faire. Ce que je t'ai dit qui devait arriver, ça t'est arrivé sur le billard.
C'est incroyable.
C'est terrible de pouvoir faire le pire des accidents dans l'endroit où on va soigner cet accident.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis ce jour-là?
Ouais, j'ai refait retatouer RABQQA par-dessus RABQQA. Rien à branler, quoi qu'il arrive. Ça donne envie de plus perdre de temps avec les cons, voilà.
Vous êtes croyant?
Du tout, et Je suis pas très attiré par la religion. Elle me fait un peu peur, on va dire.
Merci Vincent Lagaffe.
Mais de rien, Deb.
Vincent Lagaffe, en ce moment, sur les planches du théâtre du Gymnase à Paris, écrite par Philippe Lelouch. La pièce s'appelle Le jeu de la vérité avec Mélanie Page, la femme de Nagui, Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve, et David Brécourt, docteur Mondino, dans la série Sous le soleil. Bon, on va pas les réduire tous simplement à ça. Ils sont très bons sur scène avec des personnages sur mesure. On rit, on grince des dents parfois et on ressort de la conquis. Dans le rétro, l'émission d'aujourd'hui est dès maintenant dispo en replay, en podcast, sur l'ordi ou sur votre téléphone portable. Le site francebleu.fr. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Salut.
Salut Déborah.